Aujourd'hui, la masterclass de Christian Boltanski avec Martin Kenéen.
Maniaque, prétentieux, rusé, malsain, gênant, artiste, sadique, maladif, nouveau, masochiste, schizophrène, important. Ce sont les questions que posait un carton d'invitation à une exposition de Christian Boltanski en novembre 1970 à Nice, dans la galerie de Bennes. Et ces questions aujourd'hui restent posées. Christian Boltanski, alors dans l'attente d'y répondre peut-être avec vous, puisque vous dites que je crois que dans un entretien la vérité n'existe pas, on sera peut-être pour nos frais. L'idée de cette série de masterclass initiée par France Culture, à la fois dans son objet, puisque son objet c'est savoir comment un artiste élabore, construit une œuvre au sens de la fabrication de celle-ci, et puis du fait qu'il y a des questions communes que nous posons à toutes celles et ceux qui nous font l'honneur de s'y prêter. Pour toutes ces raisons, j'ai pensé aux lettres à un jeune homme de Max Jacob, qui sont un peu comme les lettres au jeune poète de Rilke, qui délivrent à la fois des conseils et puis qui ouvrent une fenêtre sur la pratique, sur la vie aussi de l'artiste. Et j'ai été saisi de constater, Christian Boltanski, que la mort de Max Jacob au camp de Drancy en 1944, après avoir été arrêté par la Gestapo, précédé de quelques semaines seulement votre naissance. C'était un temps où on pouvait être arrêté et mourir, comme Max Jacob, comme son frère, sa sœur, qui eux ont été déportés à Auschwitz et gazés à leur arrivée. Et à cette époque, votre père, lui, vivait caché sous le plancher de votre appartement. Et vous, vous avez été conçu à cette époque. Et vous avez longtemps dit avoir oublié cette enfance. Et c'est cet oubli qui a fait la matière de vos premiers travaux, de votre vrai travail, comme vous avez pu le dire en 69. Vous dites « mon vrai travail, celui que je fais encore maintenant, débute avec le petit livre « Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, 1944-1950 ». Et ensuite, quelques repères, donc après le début de ce vrai travail, vous avez travaillé à reconstituer cette enfance à partir d'objets, les fameuses boîtes en fer blanc, des objets en pâte à modeler. C'est en particulier le cas dans « Essai de reconstitution, trois tiroirs » en 1970. Ensuite, vous avez travaillé à dévoiler tout autant qu'à dissimuler votre histoire, votre famille, via des photos. Je pense à l'album de photographie de la famille D en 1971, dont on ne sait pas qui sont vraiment les personnes photographiées. Il y a vos scénettes comiques en 1974, des photos où vous incarnez de façon grotesque des moments clés de votre vie et de celle de membres de votre famille. Puis viennent les compositions, des photographies monumentales de petits objets sur fond noir. Et vous revenez à ces boîtes en fer blanc avec en particulier les archives de CB 1965-1988, qui est un mur de 646 boîtes à biscuits en fer blanc. Et ensuite apparaissent dans votre travail les vêtements, avec la série des réserves au tournant des années 90, des photos qui reviennent avec Menschlich, une grande installation en 1994, où on a l'impression que les photographies en noir et blanc tirées de vos archives remplacent ces boîtes en fer blanc comme les briques des murs qui nous regardent. Il y a vos archives du cœur, débutées en 2005, où vous enregistrez des battements de cœur un peu partout sur la planète. Cette grande installation également, Personne au pluriel, en 2010, sous la nef du Grand Palais, dans le cadre de la Monumenta, où on retrouve ce mur de boîtes à biscuits, des rectangles de vêtements posés à plat, entourés de poteaux métalliques d'où émanent des battements de cœur, et cette montagne de vêtements parmi lesquels une pince mécanique vient piocher au hasard. Et puis plus récemment, il y a eu cette salle des pendus, au Hornu, en Belgique, pleine nuit, à l'Opéra Comique, une installation... spectacle. Et vous, pourtant, qui avez donc travaillé la photographie, les objets en pâte à modeler, les boîtes en fer blanc, les vêtements, vous vous dites peintre.
Oui, je vais dire une chose sur Max Jacob, parce que vous en avez parlé. Mon père était un homme très étrange, juif converti au catholicisme. et il a essayé de faire canoniser Mac Jacob. Il a écrit au pape, il n'a jamais eu de réponse d'ailleurs. Mais, parce que finalement Mac Jacob était aussi converti.
Et il allait à la messe jusqu'au dernier jour.
Et donc il a essayé de le faire canoniser sans succès. Quand j'entends votre liste de ce que j'ai fait, ça me déprime énormément.
C'est vous qui faites des listes d'habitude, hein?
Oui. C'est un petit peu comme, vous savez, les maréchaux russes qui avaient des décorations partout sur le corps, comme ça. Quand on est un artiste de mon genre, on répète toujours la même chose. Et deux ou trois moments de création dans une vie sont déjà énormes. Et ces moments de création sont liés à des moments très importants corporellement. C'est-à-dire que, en étant optimiste, ce qui n'est pas tout à fait sûr, je pense avoir eu un moment de création quand je suis devenu adulte, quand j'ai perdu mes parents et quand je suis devenu très vieux. Donc c'est des moments qui sont des moments charnières et à ce moment-là, il semble qu'on approche le même sujet d'une manière un peu différente. C'est comme quelqu'un qui aurait fait un voyage et il peut raconter ce voyage par les gens qu'il a rencontrés, par les paysages, par les plats qu'il a mangés. C'est toujours le même voyage, mais on le regarde de manière un peu différente. Il y a pour moi dans la vie de chaque artiste un trauma qui est un trauma premier, et ce trauma premier qu'on porte en soi, on va en parler, on va essayer de s'en débarrasser en parlant et en le regardant de manière différente. Si vous prenez une de mes artistes préférées, qui est Louise Bourgeois, par exemple, il y avait là évidemment un trauma par rapport à son père. Je pense qu'elle ne l'a pas résolu, mais ça lui a permis de faire cette œuvre. Et je pense que malgré tout, elle était mieux à la fin de sa vie qu'au début. Donc il y a une sorte de, je ne peux pas employer le mot psychanalyse, mais une sorte de psychanalyse très très naïve et très instinctive.
Vous dites psychanalyse sauvage d'ailleurs parfois, voilà, à propos, oui, de vos œuvres. Mais puisque vous évoquez la notion de voyage et qu'on commence dans ce chemin de questions qu'on a imaginé pour cette série de masterclass, avec justement la question du choix d'une forme d'art plutôt qu'une autre. Vous vous dites, au lieu d'employer des mots, j'emploie des images. Et à propos de voyage, vous avez pu dire que en 69, au moment où justement vous débutez cette recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, vous dites, j'ai un souvenir très précis, j'étais en voiture avec mes parents et j'ai compris, premièrement, que mon enfance était terminée et deuxièmement, tout ce que je devais réaliser comme art dans ma vie. C'était quoi cet instant, justement, dans la voiture et cette vision?
La voiture était un lieu très important dans notre famille, parce que je n'allais pas à l'école, et donc je passais plusieurs heures par jour dans la voiture, avec ma mère, et j'attendais mon père dans la voiture. Donc la voiture était le sein du sein.
Vous étiez devant l'hôpital en particulier, voilà, où travaillait votre père, de peur qu'il lui arrive quelque chose, on l'attendait devant l'hôpital.
Et là, j'étais tout de même déjà assez âgé, mais j'étais un peu retardé, et j'ai compris que ce monde allait disparaître. Le but que je m'étais donné était d'essayer d'empêcher la mort, l'oubli, de garder tout. Et dans le premier petit test que j'ai fait, je dis, il faut mettre ma vie en boîte et je vais tout garder, tout protéger. Et naturellement, dès le début, je savais que c'était tout à fait impossible. À ce moment-là, je parlais beaucoup de ce que j'ai appelé la petite histoire par rapport à la grande histoire. C'est-à-dire que la petite histoire, c'est de savoir une plaisanterie ou acheter une bonne quiche à Paris. Et la grande histoire, elle est dans les livres, mais la petite histoire disparaît totalement avec nous. Donc comment sauver tout ça? Comment essayer de préserver tout ça, et tout en sachant que c'était totalement un combat perdu? Vous savez, d'une manière générale, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Très souvent, on a l'impression de ne pas comprendre quelque chose, d'être devant un mur, et puis, brusquement, on ne sait pas pourquoi, on sait ce qu'on doit faire. Alors, parfois, on se trompe, mais on a l'impression de savoir ce qu'on doit faire. Et parfois, il se passe plusieurs mois sans qu'on sache, et puis, quelque chose arrive, et on comprend. Et plus tard, quand je faisais vraiment ce qu'on appelle des œuvres, l'œuvre était déjà faite alors qu'elle n'était pas commencée. C'est-à-dire qu'on voit l'œuvre en une seconde, comme ça, on comprend. Si j'ai choisi d'être peintre, il faut dire que quand j'étais jeune, j'étais donc extrêmement étrange. Et j'ai quitté l'école vers 13 ans, je ne savais pas écrire, je passais mes journées à regarder les voitures qui passaient dans la rue. Enfin, j'étais très particulier. Et puis un jour, mon frère aîné m'a vu que je faisais un petit dessin et il m'a dit « Oh, c'est bien ce que tu fais ». Et c'est la première fois qu'on me disait que quelque chose que je faisais était bien. Et je me suis dit « Bon, c'est ce que je dois faire ».
Alors votre frère, c'est Luc, oui. Sociologue, romancier. Et alors, il y a une version, là vous dites, vous aviez fait un petit dessin, il y a une autre version parce que vous aimez bien...
En fait, c'est en pâte à modeler.
Inventer des versions. C'était un objet en pâte à modeler,
voilà,
c'était quoi?
Je crois que c'était une sorte de petit canard en pâte à modeler. Enfin, vous voyez, ce que font tous les bébés, quoi. C'était vraiment la chose la plus bête au monde. Et donc, en tout cas, j'ai eu le sentiment que ça pouvait remplacer la parole et que ça pouvait devenir mon domaine. Et comme j'avais des parents extrêmement sympathiques et gentils avec moi... J'aurais dit que je voulais être peintre, ils m'ont acheté des couleurs, j'ai dit que je voulais peindre sur bois, ils m'ont acheté des grandes plaques de bois, et j'ai fait des centaines de tableaux, heureusement détruits.
Il y a un de ces tableaux, d'ailleurs, c'est la chambre ovale, qui représente, justement, on parlait des circonstances particulières dans lesquelles votre père a survécu à l'occupation et dans lesquelles vous êtes né, en tout cas vous avez été conçu, et cette chambre ovale, c'est un homme assis, sans bras, dans une pièce qui est justement couverte de parquet.
Voilà, qui est close. Enfin, les peintures que je faisais étaient très proches d'un peintre outsider. Et très probablement, si je n'avais pas eu des parents ouverts et cultivés, mes parents auraient dû me mettre en apprentissage parce que je ne pouvais pas aller à l'école. Sans doute que je me serais enfui de l'apprentissage et que j'aurais commencé à avoir des psychiatres et qu'aujourd'hui, je serais peut-être un bon artiste outsider, peut-être meilleur que ce que je suis.
Outsider, c'est ce qu'on dit, on appelle l'art brut.
L'art brut, voilà. Je serais un meilleur artiste, mais que je serais sans doute enfermé. Et donc, j'ai eu cette chance que des parents acceptent que je sois différent, que je reste chez moi et que je fasse ces centaines de très grands tableaux. Être artiste, c'est aussi une manière de guérir. Voilà.
Oui, parce que j'ai pensé à propos de ces petites figurines en pâte à modeler, qui serait ce premier geste qui a été encouragé par votre grand frère Luc. Jean-Pierre Reynaud, qui fait ces fameux pots de fleurs remplis de ciment, et il dit que lui, c'est né comme ça, il était dans une profonde dépression, il revenait de son engagement pendant la guerre d'Algérie, il n'était pas allé en Algérie, mais il était déprimé profondément par son expérience de soldat. Et un jour, il descend dans le garage, lui qui avait fait des études d'horticulteur, il remplit un pot de fleurs avec du ciment, donc ce qui a l'air complètement nihiliste, et qui dit qu'au contraire, ce geste l'a sauvé. Il y a eu quelque chose comme ça de salvateur pour vous aussi ?
Xavier, il y a une chose merveilleuse d'être artiste, c'est qu'on ne vit pas, on montre la vie. Je veux dire, si on est déprimé, on montre la dépression. Et donc on crée une distance entre soi-même et l'objet de son malheur. Et donc, c'est une chance énorme et... Je pense même que ce que je dis est vrai et faux, mais je pense même que plus on travaille, moins on existe. J'avais cette théorie plaisanterie stupide, c'est que quand on est vieux et artiste, on devient totalement son œuvre, et que quand on regarde un Giacometti, il ressemble exactement à Giacometti, que quand on regarde un Francis Bacon, ça ressemble vraiment à Francis Bacon, et que moi je ressemble de plus en plus à une boîte de biscuits, parce que j'ai beaucoup utilisé les boîtes de biscuits. Et donc, on devient son œuvre, et on n'est plus que son œuvre. Et donc, c'est une facilité parce qu'on n'a plus à vivre, puisqu'on n'est plus que son œuvre. Donc, on montre la vie, voilà.
Mais donc, plus on travaille, moins on existe, que vous aimez répéter, c'est une bénédiction, en fait.
Absolument. Parce que c'est beaucoup plus difficile de vivre que de travailler.
Pourquoi pensez-vous que vous peignez, puisque vous peignez avec des boîtes de biscuits, avec des vêtements, avec des néons, ou que sais-je encore, Christian Boltanski? Il se trouve que vous avez pu décrire aussi, enfant, le fait que vous avez fabriqué des villes de sucre, des villes de pommes, avant même d'imaginer que ça pouvait être des gestes artistiques, et vous aimiez bien jouer aux petits soldats. Et j'ai retrouvé cette phrase dans La vie possible de CB, un livre d'entretien que vous avez accordé à Catherine Grenier, qui est publié au Seuil. J'étais guidé par l'idée que la relation que l'art entretient avec nous est très proche de celle qu'ont les enfants avec les jouets. Ce qui est beau chez l'enfant, dites-vous, c'est qu'il transforme la réalité.
Oui, quand vous jouez aux petits soldats, un tapis devient une mer infranchissable. Une table est une montagne. Et donc, à cause de cela, si vous voulez, on voit le monde qui nous entoure d'une autre manière. Et effectivement, un enfant peut prendre une petite voiture et imaginer que c'est un avion et cette petite voiture se met à voler. Il y a en même temps un lien avec la réalité, mais ce lien avec la réalité est totalement transformé par l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a un lien avec une réalité qui nous entoure, et puis on en fait une chose complètement autre. La beauté peut-être de la peinture, par rapport aux mots, Je ne parle pas de la poésie, qui est exactement comme la peinture, mais c'est qu'en peinture, il y a une sorte d'ambiguïté très grande. On peint un chapeau et ça peut être un chameau. Et donc chacun, comme on sait, c'est toujours celui qui regarde l'œuvre, qui finit l'œuvre, et donc chacun peut voir le tableau comme il a envie de le voir, parce qu'il est ambigu. Et donc chacun le réécrit ou le revoit avec son propre vécu, avec ses propres désirs. Souvent, les mots, pas les mots poétiques, ils sont en même temps plus que précis, plus qu'imprécis, mais les mots de la littérature, du roman, sont parfois trop précis. Et donc la beauté peut-être de l'art est dans cette imprécision.
Et puisqu'on est dans la question du pourquoi, ça veut dire, eu égard à cette ambiguïté que vous évoquez, Christian Boltanski, ça veut dire que vous peignez, vous faites ces installations pour ne pas avoir à choisir, pour rester justement en l'air, dans le flou, et peut-être après coup,
parce que
avoir une idée.
Est-ce que vous vouliez vraiment ? Je crois qu'on ne peut communiquer que ce que l'autre sait. Si je vous dis j'ai mal à la tête, vous pouvez le comprendre. Votre mal de tête n'est pas mon mal de tête, mais vous pouvez le comprendre. Si je vous dis j'ai mal au pancréas, j'espère que je ne sais pas ce que c'est, mais j'espère que vous ne pouvez pas le savoir non plus. Donc on ne peut parler que de ce que l'autre sait. Et forcément, si je vous dis j'ai mal à la tête, vous allez ressentir votre mal de tête, qui n'est pas le mien. Et donc ce que j'envoie comme message est une sorte de stimulus qui permet à chacun de comprendre quelque chose ou d'imaginer quelque chose. Mais il faut que cette chose soit commune. Toute l'art, c'est entre le plus singulier et le plus universel, parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Et chacun va prendre ça comme une chose qui est pour lui. Le rêve, c'est qu'ils disent « Mais comment il sait ça sur moi ? Comment il sait quelle était l'odeur du café le matin avant d'aller à l'école ?» Et naturellement, c'est l'odeur que je connaissais, mais que chacun doit prendre comme son odeur. Donc il y a toujours cette sorte de jeu entre le plus personnel et le plus collectif. Il y a très longtemps de cela, je faisais une exposition au Japon, et les Japonais qui sont des gens aimables me disent « Votre art est extrêmement japonais, totalement japonais. Vous devez connaître parfaitement la tradition zen, ce qui était tout à fait faux. Et d'ailleurs, vous faites un peu japonais, vous devez avoir un grand-père japonais. » Et j'en étais très heureux parce que j'aimerais que si j'expose en Afrique, on me dise « vous devez avoir un grand-père africain ». Disons que chacun se reconnaisse dans ce que j'essaye de dire et chacun réécrit, revoit autre chose. Donc on est toujours entre soi et les autres.
Mais à cet égard, il y a des critiques qui ont pu dire « je suis un Boltanski en voyant une de vos œuvres ». Et je ne suis pas un Boltanski en voyant la même œuvre. Vous parliez de cette odeur du café le matin avant d'aller à l'école. Vous avez pu la sentir dans des œuvres produites, fabriquées par d'autres ?
Forcément, on se reconnaît. Si vous voyez des gens qui regardent un film, chacun va voir un film différent. Parce que si vous avez perdu votre femme 15 jours avant, le film racontera une autre histoire. On ne voit quelque chose qu'avec son propre vécu. Et donc, on reconnaît toujours quelque chose qui nous touche, nous, et qui ne touche pas le voisin, ou que le voisin voit d'une manière différente. Vous parliez de vérité tout à l'heure, et effectivement, je crois peu à la vérité. Je pense qu'art, c'est l'artifice, que l'art est fait pour montrer la vie, mais pas pour dire la vérité. Ça, c'est une chose connue. Et par exemple, vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec les Suisses morts.
Vous avez fait des listes de
photos
morts,
de Suisses morts. Et
canton de Valais.
Enfin, les Suisses meurent beaucoup. On peut même dire que tous les Suisses meurent. J'avais choisi des Suisses parce qu'ils n'ont pas de raison historique de mourir. Ils sont si propres, si riches. Et pourtant, ils meurent tous. Et relativement jeunes, d'ailleurs. Donc, j'ai fait des œuvres parce qu'il y a un journal dans le Valais qui, dans les notices écologiques, met la photo des Suisses morts. Enfin, ils sont vivants, mais ils sont morts après, quoi. Et donc, j'ai à peu près, je sais pas, 15 000 Suisses morts à la maison. Et donc, j'ai fait des œuvres avec seulement des photos de Suisses morts. Et je disais 100 Suisses morts. Je mettais toujours 99 de morts et un vivant. Et je disais, le titre est faux, donc c'est un mensonge, mais il suffit d'attendre quelques années et le titre sera vrai. Donc c'est pour ça que la vérité est toujours un peu fluctuante.
J'essaie de vous lancer sur votre regard sur des œuvres aussi produites par d'autres artistes pour savoir s'il y a des œuvres qui, fabriquées par d'autres, nourrissent votre travail. Vous évoquiez Louise Bourgeois et vous avez pu dire que vous étiez le fils de Joseph Beuys et Andy Warhol. Je crois que vous avez même fait un spectacle de cirque avec Beuys où vous vous dansiez sur les genoux.
Oui, c'était une histoire étonnante. C'était à Bruxelles et c'était pour sauver une revue d'extrême gauche et c'était organisé plus ou moins par Beuys et par Zeman, et c'était un chapiteau de cirque. Et chacun de nous devait faire un numéro de cirque. Et Beuys avait jonglé, et moi j'avais marché sur les genoux, ce que je savais très bien faire, je ne sais plus faire malheureusement aujourd'hui, mais qui était ma grande spécialité. Vous savez, quand on est artiste, il y a une sorte de famille. C'est-à-dire forcément, j'ai des pères, des grands-pères, des cousins, des enfants, des petits-enfants, et on est à l'intérieur de cette famille. On n'est jamais isolé, on est toujours dépendant. Il n'y a aucun progrès en art, c'est la chose la plus stupide qu'on puisse imaginer, c'est de penser qu'il y a un progrès en art. L'art n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il était il y a 50 ans. Je ne sais pas s'il y a un progrès en science, mais en tout cas en art, il n'y a absolument aucun progrès. Mais il y a un déroulement. Il y a un déroulement et il y a des ruisseaux qui sont de la même famille.
Parce que quand on parle de Beuys précisément, il y a sa fameuse performance, je dirais, I like America and America like me, où enfermé dans du feutre, avec une canne qui dépasse, il est enfermé dans une pièce avec un coyote, donc une pièce pour artistes et coyotes. Et il y a comme un écho des photographies qui ont été faites de cette performance, en particulier dans votre installation Parabole, où vous reprenez des silhouettes que vous avez pu aussi élaborer pour ces hommes qui marchent, c'est-à-dire des planches habillées de par-dessus avec des néons. Et là, sort du col de ces par-dessus une lampe recourbée qui fait penser à la silhouette de Beuys dans ce I Like America. Il y a pour vous une réminiscence ou c'était fortuit ?
En fait, je pense que ma plus grande influence ou mes plus grandes influences ont été Tadeusz Kantor, que j'ai eu la chance de connaître et qui a vraiment eu une importance très grande dans ma vie, et puis Pina Bausch. Donc des gens qui n'étaient pas forcément liés au domaine des arts plastiques. Et je les ai connus tous les deux. Parce que Beuys, je l'ai à peine connu. Mais ces deux-là, je les ai bien connus. Et ils ont eu une importance très, très grande dans ma vie. Et justement, peut-être que le fait qu'ils employaient un langage un peu différent du mien permettait, même si Cantor était aussi peintre, permettait que je puisse me servir d'eux plus facilement que s'ils avaient été plasticiens. Aujourd'hui, je ne produis plus d'objets. 90% des choses que j'ai faites sont détruites après l'endroit où je les ai montrées. Un peu comme des partitions musicales, on peut les refaire et les rejouer. La pièce du Grand Palais, par exemple,
personne
a été jouée à Milan, à New York et au Japon. Mais naturellement, il n'y avait aucun transport. Elle était refaite à chaque fois et différente à chaque fois. Donc c'est en même temps la même œuvre et une autre œuvre. Et donc il n'y a plus vraiment de matérialité dans ce que je fais. Il y a une partition qu'on peut rejouer. Et donc pour le moment, tant que je suis vivant, je joue mon œuvre. Mais un jour, il faudra que d'autres gens jouent mon œuvre. Et donc on pourra dire œuvre de Christian Boltanski interprétée par Monsieur Intel. Et on dira elle a été très mal interprétée ou très bien interprétée, mais il y aura quelqu'un qui devra la réincarner, comme un pianiste réincarne une œuvre.
Mais donc vous êtes le compositeur, si on suit cette idée de partition, et vous êtes donc celui qui a l'idée de départ, à défaut d'avoir le final cut, comme on dit au cinéma, d'avoir le dernier geste, le dernier coup de ciseau. Mais à propos de cette idée de départ, comment est-ce qu'elles vous viennent, ces idées, notamment peut-être ces idées d'inventaire, cette liste de Suisses morts, ou ces listes d'autres natures que vous avez pu faire depuis cette recherche sur votre enfance?
Toutes les œuvres que j'ai faites sont une tentative pour trouver une réponse à des questions que je me pose. Naturellement, il n'y a pas de réponse, mais c'est des essais pour trouver une réponse. Et donc, chaque fois, je ne fais rien qui soit gratuite. Chaque chose est l'idée que je dois, au lieu d'employer des paroles, j'emploie des formes, des objets, des couleurs, des sons, mais c'est à chaque fois pour poser cette question. Comme ça, dans ma vie, je me suis posé un certain nombre de questions, et une des questions principales était l'importance que je donne à chaque être humain et en même temps sa fragilité. C'est-à-dire qu'on se souvient de son grand-père, mais pas de son arrière-grand-père. Et donc, chacun est extrêmement important et chacun est extrêmement fragile. Il ne reste plus rien. Et donc beaucoup d'œuvres tournent autour de cela, autour de comment préserver quelque chose. Et donc chaque chose est pour moi l'occasion de poser une question, mais je crois qu'une question amène une autre question, mais n'amène pas de réponse. Et je me méfie beaucoup de ceux qui ont une réponse. Et je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'une question amène une question qui amène une question qui amène une question. Je suis un artiste contemporain puisque je vis aujourd'hui, mais je ne suis pas un artiste moderne parce que les questions que je me pose sont les mêmes questions qui sont posées depuis toujours par les théologiens, les philosophes, les artistes et par tout le monde en gros. Alors la manière de parler est forcément une manière de parler d'aujourd'hui parce que j'utilise la vidéo, la photographie, donc des moyens très techniques, les ordinateurs, mais en même temps, les questions que je me pose sont toujours les mêmes. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai essayé de travailler sur Facebook, qui est une chose tout à fait d'aujourd'hui, et parce que dans Facebook, il y a énormément de morts. En gros, on ne peut pas se débarrasser des morts dans Facebook. Et donc, j'ai essayé de trouver les morts sur Facebook, ce qui est extrêmement difficile d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était que, en fait, c'est une armée de fantômes, quoi. En tout cas, les fantômes se cachent à l'intérieur de cette chose qui est en principe plaisante avec ses amis. Et donc, Facebook est une chose très récente. Et en même temps, la question que je me posais en regardant Facebook est une question très ancienne. Vous savez, c'est toujours cette idée, par exemple, quand on a un petit carnet d'adresses et puis que les gens meurent, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on barre le nom? Heureusement, on perd ces petits carnets, c'est une grande chance, parce que sinon c'est effrayant. J'avais fait il y a longtemps un livre amusant. C'était pour une exposition que j'avais fait en Suède à Malmö. J'avais demandé qu'ils achètent l'annuaire du téléphone de l'année d'avant. Donc ils avaient acheté, je sais pas, 2000 annuaires du téléphone, ça coûte pas cher. Ils avaient demandé qui était mort entre temps. Et donc il y avait l'annuaire du téléphone, puis une page à l'intérieur qui marquait errata. Ces gens ne peuvent plus répondre au téléphone. Et il y avait 4 pages de liste de noms des gens qui donnaient l'annuaire mais qui ne peuvent plus répondre au téléphone. Voilà, on se pose une question. Je m'intéresse beaucoup au hasard. Au hasard et à la destinée. Parce qu'en fait, c'est une question d'ordre religieux. Je veux dire, si on est croyant, on pourra dire que je vais me faire écraser en sortant, mais qu'il était dit qu'il fallait que je vienne aujourd'hui parler et que je serais parti 3 minutes plus tard et que tout ça était écrit et que je me fais écraser. Si on n'est pas croyant comme je ne suis pas croyant, c'est simplement parce que j'aurais glissé et qu'il pleuvait et puis que c'est le hasard, quoi, vous voyez. Et donc, la question de hasard est destinée pour moi très importante. Depuis toujours, j'ai fait des œuvres à ce sujet. Il y a une œuvre que j'avais montrée à la Biennale de Venise qui sont des, je sais pas, 600 ou 700 photos de bébés polonais qui, comme des rotatives de journaux, tournent extrêmement vite. Et puis, il y a un ordinateur aléatoire qui les arrête de temps en temps et un bébé est filmé pendant 20 secondes. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était l'idée que ce que nous sommes tous est lié seulement à l'instant où nos parents ont fait l'amour. Ils auraient fait l'amour 2 secondes après, que j'aurais été totalement différent. Donc, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas si c'est le hasard ou la destinée, mais c'est des questions qu'on peut poser.
Mais si on s'arrête sur ces bébés polonais et sur la série aussi de vos œuvres intitulée Réserve, où vous travaillez donc avec des vêtements, où on a eu tôt fait de faire un rapprochement entre ces vêtements que vous installiez dans des espaces comme ça où ils étaient comme presque compressés les uns contre les autres, accrochés. Moi, j'ai pensé à un plan du film Nuit et brouillard d'Alain René où on voit les effets qui étaient pris aux juifs déportés et ensuite stockés dans des grands espaces de stockage. On a fait un parallèle donc entre cette série des réserves et l'expérience de l'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Est-ce que pour vous, il y a parfois un travail de documentation historique, que ce soit à travers des lectures, à travers des pèlerinages, voilà, la fréquentation de musées, pour aborder, pour répondre à une des questions qui vous travaillent?
Non, pas du tout. Je pense que ça se passe d'une manière totalement inconsciente. Il est vrai que très très jeune, j'ai eu le sentiment que un vêtement usagé, un corps mort et la photographie de quelqu'un, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'est un sujet qui renvoie à un objet disparu. J'ai acheté beaucoup de vêtements aux puces et ce qui est très touchant, c'est que il y a une veste qui est sur le trottoir. Et puis cette veste, elle a appartenu à quelqu'un et cette personne est morte ou alors cette personne ne l'a plus aimé, donc elle est en manque d'amour en tout cas. Et puis on va la regarder et on va lui dire « viens avec moi » et cette veste va revivre. Elle va de nouveau avoir des aventures, elle va être aimée à nouveau. Un vêtement usagé est vraiment comme quelqu'un. Enfin, c'est l'image de quelqu'un, mais c'est l'image de quelqu'un qui est en même temps absent. Donc je me suis beaucoup intéressé à cela. Et puis, il est vrai que tout à l'heure, je parlais de trauma. Et étant né en 44, tous les amis de mes parents étaient des survivants de la Shoah. Et à l'âge de 2, 3 ou 4 ans, j'ai entendu des soirées entières de récits. Et je pense que ça m'a marqué à jamais. Je n'ai pas parlé de cela tout à fait récemment, mais quand je disais des Suisses morts, n'importe quel psychanalyste dirait Suisse mort, Juif mort. Enfin, en tout cas, je pense que ça a été, peut-être pas mon seul trauma, mais une partie de mon trauma et une partie d'explication de mes intérêts. Quand je parle de la chance, du hasard, pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas? Quand on parlait tout à l'heure de la pièce Personne, il y avait cette pince automatique qui prenait les vêtements et qui les prenait totalement au hasard pour les rejeter. C'est le doigt de Dieu, c'est le destin.
Et qu'est-ce qui fait que vous choisissez une forme, un médium, plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a ces fameuses boîtes à biscuits qui vont vous poursuivre jusque dans l'au-delà, je pense. Mais en revanche, le travail sur la photographie, le travail sur les vêtements, le travail sur voilà des installations qui peuvent être de nature un peu différente, sont parfois suivis pendant un certain temps, et puis vous passez à une autre forme. Qu'est-ce qui fait que vous faites ces choix et que vous ne pouvez pas vous débarrasser de la boîte à biscuits?
Vous savez, c'est comme un vocabulaire qui s'augmente. Si on emploie toujours les mêmes mots, puis de temps en temps, il y a un nouveau mot qu'on apprend ou qu'on aime. En gros, les objets que j'ai utilisés étaient des objets que chacun pouvait reconnaître. Ce qui m'intéressait dans la boîte de biscuits, c'est que c'est un objet minimaliste, mais que chacun, chez soi, étant enfant, en tout cas pour ma génération, avait une boîte de biscuits où il mettait ses petits trésors, et puis que ça rappelle un peu les urnes funéraires, et en plus que c'était un élément qui était extrêmement bon marché. Économiquement bon marché, c'était pas du bronze. Et puis un élément qui était aussi non artistique, entre guillemets, donc ressenti comme une chose de la vie, et que chacun pouvait dire « oui, moi aussi j'en ai une ». Et donc en gros, les éléments que j'ai utilisés étaient les éléments qui étaient les éléments que chacun pouvait avoir, pouvait reconnaître. C'était toujours ce désir de proximité. Un des problèmes de l'art, c'est que la vie est plus touchante que l'art. Et donc, il faut pendant quelques secondes que le visiteur ne sache pas trop qu'il s'agit d'art. Il ne s'agit seulement que d'art, mais il faut espérer que pendant quelques secondes, il y ait un instant où il n'a pas conscience. Quand j'expose, même avant, maintenant c'est très différent, même avant, je ne mettais jamais d'étiquette. Parce que si on commence à dire, tiens, c'est une œuvre de telle période, on perd cette idée que c'est peut-être la vie. Le rêve pour un artiste, c'est quelqu'un qui arrive dans un lieu... Il comprend rien, il se jette par terre, il pleure, mais il voit pas que c'est de l'art. Et s'il commence à dire « Ah, Boltanski est un bon artiste conceptuel de la fin du XXe siècle », ça veut dire que c'est très très mauvais. Et donc il faut toujours être comme ça, on ne sait pas ce qui arrive. Quoi. Il arrive quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il arrive. Et donc c'est la recherche est pour moi là, et donc il faut cette sorte de très léger instant d'ambiguïté avec la vie. Et c'est pour ça que très souvent, j'ai exposé dans des lieux, des églises, des garages, des lieux qui n'étaient pas forcément liés à des lieux artistiques. Le rêve pour faire une exposition, dans les pays du Sud, parfois les portes des églises sont ouvertes, et puis vous avez l'agitation, j'étais à Naples hier, vous avez l'agitation, le soleil, et puis il y a ces endroits sombres, et là il y a une odeur, il y a un monsieur qui lève les bras, quelquefois il y a de la musique... Et puis on traverse ce lieu, on sait qu'on comprend rien de ce qui se passe, mais on sait qu'il se passe quelque chose. On peut s'asseoir pour se reposer pendant 3 minutes. Et puis on ressort par la porte et on revient avec les voitures, les klaxons, le soleil et la vie. Et je pense que le rêve pour un artiste, c'est de créer un lieu comme ça. C'est-à-dire ça. Un lieu où on ne sait pas trop ce qui arrive, mais on peut réfléchir pour soi-même. On peut s'asseoir quelques secondes et quelque chose arrive, mais on ne sait pas trop ce qui arrive.
Oui, il y a même l'idée peut-être d'une traversée de la mort, oui. Puisque les religions et l'Église, en l'occurrence les églises napolitaines aussi, proposent un discours face à ce scandale de la mort. Et vous, d'emblée, puisqu'on parlait de la vie, il y a la vie et l'art en tension, et puis il y a la vie et la mort. Et en 69 avec ce fameux Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, qui est un peu une œuvre inaugurale, vous dites que vous avez cherché à mettre votre vie en sécurité, soigneusement rangée et étiquetée dans un lieu sûr, pour être assuré de ne pas mourir et de pouvoir enfin vous reposer. Et donc je voudrais savoir si le plus difficile, ça me fait penser aussi à une réplique dans À bout de souffle, je crois, de Godard, où on demande à un écrivain à la mode ce qu'il voudrait le plus au monde, et il dit « je voudrais devenir immortel et puis mourir ». Et donc je voudrais savoir si pour vous c'est ça aussi, le plus dur c'est de ne pas mourir ou c'est de
alors,
mourir.
D'abord c'est une phrase relativement optimiste parce que je sais que maintenant c'est totalement impossible. Depuis maintenant, je crois, 7 ans, j'ai vendu ma vie en viager. Et donc, il y a effectivement un homme en Tasmanie qui a acheté ma vie et mon atelier et là où j'habite sont filmés jour et nuit, que je sois là ou pas là, et tout est préservé. Donc il y a des milliers d'heures et des milliers d'heures de mon existence. Mais en même temps, il n'y a rien. On me voit me gratter le nez, ce qui n'est pas très intéressant. C'est pas, en tout cas, il n'a pas mes pensées. Alors, lui dit qu'il a acheté ma mémoire, ce qui est plus vrai, parce qu'il sait qui j'ai rencontré il y a 2 ans, et moi, j'ai oublié. Donc, lui, tout ça est classé. Et en principe, d'après lui, je devrais mourir d'ici 3 mois. Parce que c'est un viager, comme tout viager. Et donc, dans 3 mois, il aura remboursé la somme que je lui ai demandée au départ. Et comme cet homme est un joueur professionnel, qu'il avait fait sa fortune sur le jeu, il m'a assuré qu'il allait gagner, qu'il ne perdait jamais. Et donc si je meurs aujourd'hui, effectivement, il aura payé un peu moins cher que ce que je lui ai demandé, mais si je meurs dans un an, il aura payé plus cher que ce que je lui ai demandé. Et donc ça a été fait assez sérieusement, avec contrat, médecin, etc., comme tout bon viager. Et on verra.
Vous vous sentez suivi en ce moment?
je l'appelle le diable de Tasmanie, parce que l'animal fétiche de la Tasmanie, c'est le diable de Tasmanie, donc je l'appelle le diable de Tasmanie. Et c'est un homme effectivement très très étrange, extrêmement intelligent et étrange.
Il a le droit de vous regarder en direct d'ailleurs, et pas de rembobiner jusqu'à votre mort.
Ce qui est intéressant, c'est que naturellement, si vous regardez quelqu'un, toujours, vous n'avez plus de vie. Et donc, il paie un malheureux pour me regarder. Donc le métier est de me regarder.
Mais ça veut dire que La vie impossible de Christian Boltanski, qui était le titre de votre, je crois, presque votre première exposition,
oui,
en mai 68,
oui,
est devenue possible grâce à ce diable.
Oui.
C'est lui qui vit votre vie.
Il vit ma vie, oui. Quelqu'un vit ma vie. Mais
qu'est-ce qu'il voit alors, si on parle de votre méthode de travail et de votre vie au quotidien dans votre fameux atelier de Malakoff en région parisienne? Ça ressemble à quoi, votre méthode de travail? Est-ce que voit donc ce diable de Tasmanie sur ses écrans?
C'est du désordre un peu, et je ne fais rien. Je travaille extrêmement peu. J'arrive à mon atelier tous les jours à 11h30 et j'en repars à 7h. Voilà, donc je reste vraiment très longtemps dans l'atelier même, mais je ne fais rien. J'ai été professeur pendant très longtemps. Et je dis toujours à mes étudiants, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre et espérer. Ce qui d'ailleurs les désespérait complètement et ils me quittaient aussitôt. C'est vrai, la chose qu'on peut faire quand on est artiste, c'est attendre et espérer que peut-être un jour, on va comprendre quelque chose. Récemment, enfin il y a maintenant 2 ans, j'ai installé une œuvre dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, qui est l'endroit le plus sec au monde. Et à cause de cela, c'est là où on voit le mieux les étoiles. Et donc j'ai installé 500 petites clochettes qui représentaient la carte du ciel un certain jour.
Le jour de votre naissance.
Le jour de ma naissance. Et j'ai travaillé pour m'aider avec une petite communauté indienne qui était là. Et donc j'ai parlé avec le chaman de cette communauté. Et j'ai compris à ce moment-là que l'activité que j'ai était liée au fait que j'étais né à Paris au XXe siècle. Mais je serais né dans ce désert, que sans doute j'aurais été chaman, je serais né en Ukraine au XIXe siècle, que j'aurais été rabbin, et que finalement que c'était le même métier. C'était d'essayer de comprendre. Naturellement, moi je m'exprime d'une autre manière, puisque je m'exprime avec des objets, mais que c'était à peu près la même chose. Et alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que je crois que les mythes sont plus forts que les objets. Il y a un temple au Japon, et beaucoup de choses au Japon sont comme ça, mais il y a un très grand temple qui est très ancien, qui doit avoir 800 ans, et qui est refait tous les 25 ans à l'identique. En Occident, tout est basé sur la sainte relique. toutes les villes d'Europe ont été fondées sur un petit bout d'os. Et puis après ça, on faisait une cathédrale, les gens venaient prier. Et puis il y avait une foire et la ville devenait riche. Et par exemple, Bilbao, où ils ont construit ce grand musée, c'est une ville pauvre. Ils ont mis quelques petits bouts d'os d'artistes à l'intérieur. Et la ville est devenue beaucoup plus riche. Donc il y a toujours cette fonction du sacré de l'objet. Comme on sait, on pourrait refaire des Van Gogh par centaines, exactement semblables, mais il faut aller à Amsterdam, attendre sous la pluie et s'approcher du sein du saint et voir le Van Gogh pendant 20 secondes, et puis voilà. Bon. Donc il s'agit toujours de la relique. Et au Japon et dans d'autres cultures, les objets sont toujours neufs, et par contre, il y a des gens qu'on appelle plus ou moins monuments nationaux parce qu'ils savent refaire des objets. Et donc, il y a deux manières de transmettre, une par l'objet et l'autre par la connaissance. Et donc, dans mon cas, aujourd'hui, il s'agit plutôt d'essayer de transmettre par la connaissance.
C'est un monument national, Christian Boltanski?
De ma propre nation, naturellement. À un moment, je voulais fonder une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme, que je m'appelle Christian et dont j'aurais été le seul membre. Mais j'ai renoncé. Et je crois même de plus en plus, vous savez, par exemple, j'ai cette île au Japon, dans la mer du Japon, où je collectionne des battements de cœur. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à peu près arrivés à 120 000 battements de cœur venant de beaucoup de pays différents. C'est très très beau comme endroit, mais il n'y a pas besoin d'aller là.
C'est à Teshima.
C'est Teshima. Il y a besoin de savoir que ça existe. L'histoire compte plus que l'objet même. Et si on y va, et les Japonais qui y vont, souvent, ils ne savent même pas que je suis un artiste. C'est un lieu de pèlerinage. Ils viennent pour écouter un chœur de quelqu'un qu'ils connaissaient. Et donc, on peut imaginer que le mythe dure plus que l'œuvre.
Mais là, vous évoquiez les reliques, et vous y insistez d'ailleurs, vous avez pu le dire, les reliques sont presque toujours fausses.
Oui.
Parce qu'au Moyen-Âge, on aimait bien voler les reliques pour attirer la sainteté sur soi. Oui. Et on a pu découvrir, sans blasphème, que parfois c'était des os de cochon ou de chien qui avaient remplacé la fameuse relique, parce qu'il avait bien fallu la conserver ou produire un objet aux yeux des fidèles. Et donc, plutôt que ces reliques, ces morceaux d'os d'artistes, vous préférez le mythe. Vous dites, pas la peine de le voir, il suffit de savoir qu'il est là. Mais c'est ce qu'on dit du diable, on le voit pas, et il suffit qu'on imagine sa présence. Donc, plutôt que les reliques et le bon Dieu, vous avez choisi le diable?
Non, c'est pas ça, c'est la connaissance.
C'est diabolique aussi, hein, depuis le jardin d'Éden,
oui, la connaissance. Absolument. Non, mais l'objet est un objet. Le mythe se transforme, se change, se passe, se repasse. Et en cela, il a peut-être une vie plus profonde. Là, je travaille en ce moment sur un nouveau projet. Chez les Amérindiens, les baleines sont ceux qui détiennent les secrets. Notamment les secrets de la création. J'ai trouvé un lieu en Patagonie extrêmement désert, vraiment très très loin de tout. Et là, je suis en train d'installer des sortes de grandes tours métalliques. Et dessus, il y aura des trompettes. Et quand le vent ira dans ces trompettes, ça fera le chant des baleines. Et comme il y a beaucoup de baleines à ce moment-là, il se créera une sorte de conversation avec les baleines. Naturellement, personne ne va jamais aller là. C'est 5 heures de chemin de terre atroce, il n'y a ni wifi, ni téléphone, il n'y a rien.
Il y a la pointe sud de l'Amérique du Sud.
La pointe sud est un peu trop habitée. C'est ce qu'ils appellent la Patagonie du Nord. Pour vous dire la taille, celui qui accepte que je fasse ça, c'est une ferme, il y a 100 000 hectares. Donc c'est très très vaste, vraiment. Mais très pauvre en même temps, mais très très vaste. Et il a 40 000 moutons, cet homme. C'est un endroit vraiment très très perdu. Et donc, personne n'ira jamais, et si on y va, c'est peut-être pas très intéressant, mais on saura, j'espère, qu'il y a quelqu'un qui a voulu parler aux baleines et leur demander le secret de l'univers. De savoir ça est pour moi suffisant. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une réalité. C'est-à-dire que si je disais j'ai construit une maison sur Mars, ça m'intéresserait pas du tout. Il faut que ce soit vrai, d'abord pour le travail de la fabrication de la chose, des rencontres avec les humains qui sont autour de moi, et puis qu'il y ait une réalité, mais que ça n'a pas besoin d'y aller. Il faut le savoir, simplement.
Mais il semble quand même qu'il y a un monde entre ces battements de cœur collectés et diffusés sur cette île de Teshima au Japon, entre cette conversation avec les baleines que vous êtes en train d'installer en Patagonie, Christian Boltanski, et peut-être, par opposition, ce que vous avez fait à vos tout débuts, je pense à ce petit film qui s'appelait « L'homme qui tousse », avec cet homme qui tousse et qui finit par cracher du sang sur son propre corps. Et j'ai l'impression qu'il y a comme voilà tout un monde, toute une opposition entre les deux. Est-ce qu'il y a l'idée parfois, bien que vous aimez dire, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de progrès en art, on ne fait que répéter, est-ce qu'il y a quand même une réaction par rapport à des œuvres antérieures et l'idée de penser contre soi pour avancer?
Oui, je me disais, c'est toujours la même histoire. Hein. On l'exprime de manière différente. Je n'expose plus en galerie, pratiquement plus jamais. Je ne produis plus d'œuvres qu'on peut acheter et ça ne m'intéresse plus. Peut-être parce que j'ai travaillé dans les spectacles théâtraux que j'ai fait avec des amis. Mais en tout cas, il y a cette notion d'éléments qui sont détruits, de choses qu'on n'a pas besoin de voir mais de savoir. Donc c'est une nouvelle, un peu un nouveau temps dans ma vie. Et comme je vous le disais, qu'il y a eu pour moi 3 temps de création, c'est un 3e temps de création.
Alors comment vous vous définiriez dans ce nouveau temps? Parce que vous avez pu dire au début, l'artiste c'est un idiot du village, ensuite c'est un idiot du village et un saint, ensuite idiot du village, oui, je suis un saint mais je suis aussi un tueur. Vous avez ajouté escroc à votre définition de l'artiste et de votre propre travail de peintre, Christian Boltanski. Qu'est-ce que vous êtes en plus aujourd'hui?
Je crois vraiment d'abord, tout artiste est escroc et tout artiste est saint. J'adore La Nuit du Chasseur et je mettais une photo de Love and Hate dans tous mes catalogues quand j'étais jeune. Aujourd'hui, pour dire des choses qui ne sont pas tristes, parce que c'est normal, c'est la fin. Donc finalement, c'est partir en Patagonie, c'est vraiment partir, quoi. Et c'est les histoires qu'on pourra raconter sur moi. Et il y a eu un homme qui... Il y a une île quelque part... Il y a un diable qui a acheté la vie d'un autre homme. Vous voyez, et finalement, ce sont peut-être, et ce que je dis est vraiment prétentieux, c'est d'essayer de créer des légendes. Et que ces légendes soient comme des contes, que les gens se redisent, et finalement on oublie complètement qui était au début de ces légendes, que le nom soit oublié, mais que les légendes restent. Donc c'est une période qui est une période effectivement liée à mon âge. Pour dire une chose là, facile à voir, sous la cathédrale de Salzbourg, le temps est dit. C'est-à-dire qu'il y a une horloge parlante qui dit il est 15h, 24 minutes, 15 secondes, 15h, 24 minutes, 30 secondes, etc., etc. Et pour faire ce travail, il a fallu convaincre l'évêque de Salzbourg, qui était un vieux réac, et donc j'ai passé beaucoup de temps à lui expliquer que Dieu était le maître du temps. Et peu de gens le savent, mais ça m'intéresse que le temps soit dit sous la cathédrale de Salzbourg, voilà. Même à Paris, alors là c'est une très vieille œuvre, mon œuvre la plus grande que personne ne voit se trouve sous la Cité de la Musique, sous l'école de musique, et c'est une œuvre qui doit faire 3000 mètres ou un truc comme ça que j'ai fait il y a plus de 20 ans.
Donc du côté de la Villette.
Du côté de la Villette, il y a plus de 20 ans.
De Paris.
Et elle est visible, mais très peu de gens savent qu'elle existe, et pour y aller, il faut demander la clé au directeur, prendre un rendez-vous. Les étudiants, par exemple, du conservatoire ne savent pas qu'elle est là. Enfin, ils n'ont jamais, ils ne se sont jamais posé la question. Et donc, ça m'intéresse d'avoir cette œuvre cachée, pas cachée puisqu'elle est ouverte, mais rarement visitée. Et c'est comme, là encore, une sorte de tombe. Elle est là pour toujours, mais elle pourrit petit à petit.
Mais alors, comme Marcel Duchamp disait qu'il aimait travailler caché, vous travaillez sous le regard de ce collectionneur de Tasmanie, mais vous aimez exposer caché.
Je pense que voir n'est pas nécessaire. Connaître est plus nécessaire que voir. Donc peut-être que maintenant que j'ai dit ça, les gens qui vont passer à la Villette vont se dire, tiens, il y a là, sous terre, 3e sous-sol, une œuvre qu'on pourrait aller voir mais qu'on n'ira pas voir.
Mais quelle idée vous faites justement de votre public? Vous évoquiez Cantor tout à l'heure, qui a pu organiser, je crois, des manifestations de gens qui, au lieu de brandir des pancartes, brandissaient des miroirs. Vous aimez bien dire que l'artiste, il a un miroir à la place du visage.
On devient les autres. Puisque chacun se reconnaît en nous-mêmes, donc effectivement, chacun qui vous voit vous dit c'est moi. Et donc, il y a une histoire de Bradbury comme ça qui est extraordinaire. C'est des parents qui ont perdu leur enfant. Ils sont dans un endroit isolé, puis ils voient un enfant qui marche sur la route et c'est leur enfant. Donc, ils sont très heureux. Ils vivent là, dans cet endroit caché pendant un certain temps, et puis ils vont en ville avec cet enfant. Et là, quelqu'un dit grand-père, maman. Et en fait, ils comprennent que cet enfant est un martien et qu'il n'est seulement que le désir perdu de ceux qui ont perdu quelqu'un et qui prend la forme du désir. Et donc, effectivement, quand on est artiste, on est un peu ça. On n'est rien et on est le désir des autres ou le questionnement pour les autres. Alors, effectivement, si on est artiste, c'est pour communiquer. Enfin, aussi ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un malentendu? Parce que j'ai l'impression que dans la réception critique de votre travail, en particulier depuis que vous êtes connu internationalement, depuis le milieu des années 70, même le début des années 70, vos premières participations à la Monumenta de Cassel, aujourd'hui vous êtes reconnu comme un des plus grands plasticiens ou peintres français, et j'ai l'impression que on aime bien vous parler avec un ton solennel, ce que je fais depuis tout à l'heure d'ailleurs, avec gravité, les thèmes du temps, de la mémoire, de la mort, alors qu'il y a au fond une dérision, au sens non pas méprisant, mais noble du terme, un humour très fort et plein de mensonges dans ce que vous nous racontez.
Il est certain que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie, et je pense que le fait d'avoir pensé à ce sujet, qui est effectivement un sujet commun à tous, qui est la disparition, fait que je suis plus tranquille aujourd'hui, et qu'on est plus tranquille. Il y a un grand rapport entre les histoires hassidiques et les histoires zen, étrangement.
Donc des juifs traditionnalistes
des fin fonds de la Pologne et des moines bouddhistes. Et on trouve les mêmes histoires pratiquement. Il y a une histoire que j'aime bien, comme ça, c'est il y a un grand rabbin qui est en train de mourir, puis il y a plein de rabbins autour, et puis le plus jeune, Benjamin, dit « je veux poser une dernière question ». Alors tout le monde fait « ah ». Le plus jeune, il dit « je voudrais savoir qu'est-ce que la vie ». Alors le grand rabbin, il ouvre l'œil, il fait « oh, la vie est une fontaine ». Et tout le monde est très admiratif, et puis Benjamin, il dit « quoi, la vie est une fontaine ?» Et à ce moment-là, c'est les dernières paroles du grand rabbin, il dit « quoi, la vie n'est pas une fontaine ». Et toute sa philosophie est détruite au dernier instant par le plus jeune. Et c'est ce qui nous arrive à tous. La vie n'est pas une fontaine, ou peut-être que la vie est une fontaine d'ailleurs.
On revient presque sur Marcel Duchamp avec ses histoires de fontaines. Il y a une question qui nous taraude dans cette série de masterclass et que je me permets de vous poser, bien que vous soyez élevé contre la marchandisation de l'art contemporain. C'est du plaisir peut-être, de la satisfaction que vous pouvez avoir à recevoir des prix et des récompenses, parce que plusieurs fois vous avez été invité à la Monumenta, et on évoquait ce pavillon français de la Biennale de Venise en 2011, que vous avez réalisé. Il y a comme ça une satisfaction, peut-être coupable, à recevoir prix et récompenses quand on est un grand peintre comme vous?
Il y a différentes choses qu'on peut dire. D'une part, parfois, par exemple, la Monumenta au Grand Palais apparemment va disparaître, et je regrette beaucoup, parce que on vous donne l'occasion de faire une œuvre qui sinon sera restée dans les limbes. J'ai tellement d'œuvres de moi qui sont dans les limbes, oui, qui ne verront jamais le jour. Et donc, quand on vous offre la possibilité de créer une œuvre, c'est une chose merveilleuse pour soi-même, comme ça, sans fierté. Et puis, il y a effectivement des bons clubs et des mauvais clubs. Il y a pas un prix au Japon que j'ai reçu qui est un bon club. Donc ça fait plaisir parce qu'on appartient à un bon club. Là-dessus, ça veut pas dire grand-chose, parce que on sait très très bien que sur 10 artistes connus aujourd'hui, disons au moins 5 auront disparu dans 50 ans, et que 3 ou 4 artistes qui sont inconnus aujourd'hui sont considérés comme des grands génies. Donc il n'y a pas de vérité, on ne sait jamais. Si vous regardez les artistes qui sont dans des magazines d'art d'il y a 30 ans, la moitié sont totalement disparus. J'avais fait une œuvre à Venise il y a quelques années, et c'était de marquer sur le pavillon central le nom de tous les artistes participants qui avaient participé à la Biennale depuis le début de la Biennale. Et il y en avait, je ne sais pas, 2000 ou un truc comme ça, et 80% de ces artistes, même un bon historien d'art, ne pouvait pas savoir qui ils étaient. Donc j'avais mis aussi mon nom, mais c'était une vanité. Et donc on ne sait vraiment rien, et donc très souvent, c'est même presque honteux de recevoir des prix. C'est pas un gage sur l'avenir, je ne crois pas. De toute façon, on ne sait rien, de toute façon, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Vous avez évoqué le fait que vous produisiez aujourd'hui, non pas des œuvres, mais plutôt des partitions pour qu'elles puissent être rejouées. Est-ce que vous avez quand même parfois la tentation, comme vous l'avez fait par le passé, en changeant les légendes, le titre des œuvres quand elles étaient reproduites dans des catalogues, est-ce que vous avez la tentation de retoucher certaines œuvres? Parce que je pense à cette anecdote à propos d'Oskar Kokoschka, donc peintre contemporain de Klimt, de Schiele. On a retrouvé comme ça un jour à Vienne, je crois, un homme qui avait plus de 80 ans et qui avait sa palette de couleurs à la main et qui voulait peindre un tableau dans le couloir. Les gardes l'ont ceinturé et c'était Kokoschka qui voulait enfin terminer son tableau qui était exposé à Vienne. Il y a parfois cette tentation-là pour vous?
Non, ce qui est sûr, c'est que quand vu mon âge, je fais beaucoup de rétrospectives un peu partout dans le monde. Et quand j'ai fait une rétrospective, je fais une nouvelle œuvre avec les vieilles pièces. C'est-à-dire que je les modifie. Et de toute façon, c'est pas, je veux surtout pas que quelqu'un dise la première œuvre est belle et puis la troisième est moins bien et puis j'aime mieux cette période. L'ensemble ne fait plus qu'une œuvre. C'est-à-dire qu'avec toutes ces œuvres que j'amène ou qu'on m'envoie, je les change pour que toute l'exposition ne soit plus qu'une œuvre et une œuvre nouvelle. Et donc, ma grande idée, c'est qu'on ne doit pas être devant, mais qu'on doit être dedans. On n'est pas devant une œuvre, mais on est dans une œuvre. Et je crois beaucoup à l'idée d'art total. C'est-à-dire que, là encore, la pièce de personne, il y avait du son, il y avait de la vision, mais il y avait aussi, j'avais fait couper le chauffage pour qu'il fasse très très froid, c'était en février, en janvier, c'était extrêmement froid. Et donc, je souhaite, le froid faisait partie de l'œuvre.
Et on parle de l'odeur aussi.
Et l'odeur, et l'odeur des vêtements. Les visiteurs devenaient aussi participants à l'œuvre. Parce que, comme il y avait des vêtements sur le sol, ils avaient la tête baissée, ils marchaient avec des gros manteaux. Donc, ils appartenaient à l'œuvre. Et donc, effectivement, je ne modifie pas vraiment les œuvres, mais n'importe quoi devient une nouvelle œuvre. Enfin, je fabrique une nouvelle œuvre à chaque fois. Heureusement, sinon, ce serait très embêtant de faire des rétrospectives. Et puis, il y a un truc très étrange que, vous savez, je dis toujours que c'est un peu comme de faire une mayonnaise. Vous avez des œufs, de l'huile, de la moutarde, et puis quelquefois la mayonnaise elle prend, quelquefois elle prend pas. Et de faire une exposition, une exposition rétrospective, c'est un peu ça. Vous avez un œuf, de l'huile et de la moutarde, et puis au dernier moment vous rajoutez un peu de sel et vous sauvez la mayonnaise. Et donc une exposition c'est un petit peu comme ça. C'est il y a des moments quand on fait une exposition qui vont très mal. Alors j'ai un ami par exemple avec qui j'ai fait les spectacles, il me dit toujours il faut c'est le moment de balayer. On balaye, on range un peu, et puis là, on rajoute un peu de sel, puis ça marche. C'est à peu près la même chose. Et en tout cas, c'est de refabriquer une œuvre. Vous savez, il y a un livre, je crois que c'est d'un auteur qui s'appelle Reverdy, qui s'appelle Place des Angoisses, je crois, qui a fait Place des Angoisses, qui était dans un autre livre. Et il dit une chose très, très amusante, également au sujet de la cuisine. Il y a un très, très mauvais restaurant, et alors il dit, il faisait revenir le steak. Et il le faisait revenir à la poêle, mais aussi revenir parce que le steak était tellement avarié qu'il le faisait revenir à la vie, en quelque sorte. Et donc, quand on a ces vieilles pièces, ces vieilles œuvres usées, il faut les faire revenir. Et donc, on tâche de les faire revenir.
Merci, Christian Boltanski, de nous avoir invités dans votre cuisine pleine de revenants, alors.
Masterclass de Christian Boltanski avec Martin Kénéen. Attaché de production Mathieu Maroudin, coordination Arnaud Laporte, réalisation Olivier Guérin.